Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 8 juillet 2026 et nous vous souhaitons la bienvenue dans l'invité du 12-13 de Souvenir FM, une émission qui parle des initiatives locales, du tissu associatif et des belles aventures comme celle de Julie et Baptiste que nous recevons aujourd'hui. Ce sont les Ride Venturers. Alors Ride Venturers, c'est la contraction de Ride qui veut dire conduire, principalement en deux roues. Et de Adventurers, qui veut dire aventurier. Donc les Ride Venturers, c'est ce couple qui revient tout juste d'un tour d'Europe à vélo de plus de 20 000 km sur une année. Et nous avons une heure tous les trois pour parler de ce fabuleux périple que j'espère inspirera beaucoup de nos auditeurs. Alors bonjour Julie, bonjour Baptiste et bienvenue dans notre émission.
Bonjour Marc.
Bonjour Marc.
Merci pour ton invitation.
Eh bien, avec grand plaisir. Sans plus tarder, nous passons aux informations nationales et internationales avec le Flash Info et nous nous retrouvons au plus vite pour parler de ce voyage riche en anecdotes et en expériences. À tout de suite.
Économie, sport, environnement politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et c'est parti pour notre émission autour du vélo. Autour du vélo, nous sommes début juillet, c'est le temps du Tour de France, mais nous allons parler d'un Tour d'Europe avec Julie et Baptiste. Avant de nous parler un petit peu plus en détail de votre grand voyage, des motivations du voyage, de sa préparation, des rencontres que vous avez pu faire, nous démarrons chacune de nos émissions à Souvenir FM par une présentation des parcours de vie des invités. Donc, avant d'être des aventuriers à vélo, messieurs, dames, qui êtes-vous, Julie et Baptiste ?
Donc, je m'appelle Julie, je viens de Marseille, je suis ingénieure de formation. Donc, j'atterris doucement d'un an de voyage. Je suis engagée dans pas mal d'associations environnementales qui œuvrent à échelle locale. Et en parallèle, je suis férue de sport, notamment de sport individuel. Mmh. Un de mes autres projets, c'est mon projet professionnel que je suis en train de développer dans le domaine du conseil environnement, bilan carbone, etc. Donc tout ce qui est lié à la transition environnementale et sociale.
Très bien. Merci Julie. On passe à votre conjoint Baptiste.
Oui, donc moi aussi je suis ingénieur de formation. Je n'ai pas fait la même école que Julie. Moi c'était à Tarbes.
À l'ENIT.
À l'ENIT, exactement. Suite à quoi je suis parti à Paris dans le bâtiment où je suis resté pendant 4 ans et demi jusqu'au Covid. Et voilà, je sentais que ce n'était pas ma place ici, enfin là-bas plutôt. Et je suis rentré du coup dans ma région natale, du coup les Landes, plus précisément à Pey où vivent mes parents. Oui. Et du coup, depuis, je travaille avec mon père qui a une entreprise de transport et que je m'apprête à reprendre vu qu'il part à la retraite bientôt.
Et vous êtes installé du côté de Tyros, c'est ça ? Donc,
exactement.
À Tyros, et nous nous sommes rencontrés dans le club de course à pied des Semisens.
Et ben voilà, le sport effectivement qui rassemble et qui réunit. Eh bien très bien, merci pour ces présentations. Alors entrons dans le vif du sujet maintenant, parlons de ce voyage extraordinaire, de ces plus de 20 000 km à vélo qui vous ont tenu en haleine du mois d'avril 2025 jusqu'au mois d'avril de cette année.
Hein, exactement.
Donc vous rentrez tout juste finalement de ce périple. D'où est venu ce voyage ? Comment, ou plutôt pourquoi finalement on en vient à se dire « Tiens, je vais partir avec ma moitié sur un vélo pendant un an. » Qui a convaincu l'autre ? Dites-nous.
Alors, c'est une question intéressante parce que je pense que on n'a pas forcément eu besoin de se convaincre l'un l'autre. Pour ma part, je sais que j'avais cette envie de voyager. Que j'ai acquise notamment durant mes études, parce que pendant mes études, j'ai fait un semestre d'échange à Copenhague et aussi un stage à Madrid. Donc, ça m'a donné envie de découvrir le monde. Et j'ai eu un peu cette éco-anxiété qui est montée en moi en fin d'études d'ingénieur, qui fait que je me suis posé la question de l'importance dans ma vie de prendre l'avion ou pas. Et donc, j'ai re-questionné ma façon de voyager. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi ne pas partir en voyage, mais sans forcément partir à l'autre bout du monde, en partant différemment, en prenant le temps et en essayant de découvrir ce qu'il y a autour de chez nous. Au final, l'Europe, ça reste un continent très divers et varié. Donc,
il est praticable effectivement autrement qu'en utilisant des litres d'essence ou de kérosène. Donc un voyage effectivement aussi lié à une posture, on peut dire, une posture environnementale en l'occurrence. Pour vous, Baptiste, pareil, pas difficile à convaincre, c'est-à-dire que vous aviez cette envie-là aussi de...
Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai voulu partir en voyage parce qu'à l'inverse de Julie, moi, pendant mes études, j'ai pas eu l'occasion de partir. Du coup, j'ai toujours eu envie de partir un petit moment, faire un long voyage entre 6 mois et 1 an. J'avais voulu le faire, j'avais entrepris de le faire début 2020. Il s'est passé ce qui s'est passé avec le Covid, donc impossible de partir.
Donc à ce moment-là, en 2020, vous aviez fini vos études.
Alors, j'ai fini mes études en 2016. Donc
ça faisait un moment que vous bossiez.
Ouais. Voilà, j'ai bossé pendant 4 ans et demi. Et en 2019, voilà, je pensais que j'avais fait le tour du métier que je faisais. Et je voulais partir en voyage.
Découvrir le monde.
Ouais. Et j'avais donc tout prévu à partir de septembre 2019. Et bon, manque de peau. Il s'est passé ce qui s'est passé en février 2020 avec le Covid. Et du coup, je suis rentré dans mes landes natales. Et après, voilà, j'ai rencontré Julie. Julie aussi avait envie de voyager. Et je savais qu'elle ne voulait pas prendre l'avion. Donc, au bout d'un moment... Moi, j'aime pas marcher, donc à partir de là...
Le vélo était un peu une évidence.
Voilà, même si je ne faisais pas... Enfin, je savais faire du vélo, mais je n'avais jamais fait trop de vélo. Même pour aller travailler, je prenais la voiture.
Parce que Julie nous disait qu'elle était férue de sport individuel. C'était pas forcément votre cas, Baptiste, c'est ça? Ou un petit peu quand même?
Alors, moi, j'ai toujours fait de la course à pied depuis 2008, je crois, ça. Donc, un petit moment quand même. Mais jamais trop de vélo, jamais de natation, pas autant du tout, pas autant de sport que fait Julie. Moi, c'était plus dans une optique de santé, d'être bien dans mon corps, plus que la performance à l'état pur. La performance vient après parce que j'ai quand même un esprit un peu compétiteur. Donc,
Et puis 20 000 km, au final, il faut quand même se les avaler. Alors, parlez-nous aussi de la préparation de ce voyage, parce que l'idée, on l'entend, elle est tout à fait louable. Après, effectivement, il y a avoir l'idée puis la réaliser. Donc déjà, félicitations à vous. Mais comment on prépare un voyage d'un an comme ça? Est-ce qu'on se dit tout de suite, on va vraiment partir un an? Est-ce qu'on se dit, on va faire le tour d'Europe, mais je veux faire toute l'Europe? Et après, on regarde une carte et on s'adapte. Parlez-nous un petit peu de la manière dont vous avez programmé cet itinéraire, etc.
Alors, nous, quand on a pour se préparer, on a eu l'idée, on s'est dit, OK, on va le faire. Et après, on n'avait aucune expérience dans le voyage à vélo. On n'avait jamais fait ne serait-ce qu'une nuit, un voyage d'une journée en vélo. Donc, il a fallu tout acheter. Heureusement, on vit dans le monde dans lequel on vit. Donc, pour ça, on peut facilement avoir des informations sur Internet. On n'est pas du tout les premiers à partir. Donc, il y a une mine d'informations sur Internet en accès libre. Il y a tout un tas de blogs hyper intéressants avec des retours sur tous les produits qui sont essentiels. Niveau préparation physique, moi je m'attendais à avoir très mal aux fesses pendant les 3 premières semaines.
Et ça a été le cas.
Après, il n'y a pas eu tant de préparation plus que acheter le matériel.
Ce qui s'est passé, c'est que. Alors, je voulais juste remonter un petit peu le temps. Lors de la discussion qui nous a amené à décider de partir en voyage, c'était assez marrant parce qu'on était chez ma maman, qui est plutôt une maman poule.
Oui.
Bisous, maman.
Du sud-est, c'est
exactement.
Ça
exactement. Hein,
méditerranéenne, bien
c'est
sûr,
ça.
La maman.
Et du coup, en fait, on était vraiment en train de discuter voyage autour d'un apéro sur la terrasse. Et là, on lance l'idée du Tour d'Europe à vélo. Donc, on se met à en discuter ensemble avec Baptiste, ma mère qui nous écoute et qui se dit
vous êtes fou.
Mais ça ne va jamais se passer, genre c'est impossible. Et finalement, ça s'est concrétisé. Elle ne nous en pensait pas capable. Hein. J'avoue qu'elle était assez stressée par rapport à ça. Mais au fur et à mesure du voyage, elle s'est rendue compte que ça se passait bien, donc ça l'a rassurée. Et effectivement, au niveau de la préparation, à savoir qu'on n'a pas tracé notre itinéraire en avance. En fait, on s'est dit un peu les pays par lesquels on souhaitait passer, les endroits qu'on ne voulait pas louper. Et on s'est dit qu'on voulait se laisser la liberté d'organiser notre itinéraire au fur et à mesure, en prenant potentiellement les conseils que les personnes qu'on rencontrerait auraient à nous donner. Donc, en fait, on savait un peu les points, on savait dans quel sens on allait faire le tour, parce que ça reste quand même important.
Oui, bien sûr. On part à droite ou à gauche au début, au nord ou au sud. Bon, après, dans les Landes, soit on va en Espagne, soit on monte ailleurs. Hein.
Exactement.
Alors, nous, on a visé le nord en été et le sud en hiver, parce que là, dans l'autre sens, c'est plus dur.
Absolument. Et puis, alors, j'imagine qu'il y a aussi, y a aussi une question de dénivelé et ce genre de choses. C'est-à-dire que vous avez dû organiser aussi votre itinéraire en fonction des reliefs. Et donc, si je ne dis pas trop de bêtises, on reviendra un petit peu plus en détail hein, tout à l'heure sur l'itinéraire et les coins, sur les coins de passage. Mais vous avez privilégié les côtes et les fleuves, quoi, parce que c'est quand même... sur un an, vous faites plus de kilomètres sur du plat, quoi.
Bien sûr. Alors, attention, il existe différents types de voyages à vélo. Oui. Il y a certaines personnes qui partent sur des périodes un peu plus courtes ou même plus légers pour leur voyage. Nous, j'avoue qu'on est déjà partis assez lourd. Oui. On s'est délesté oui. au fur et à mesure, oui. hein, à savoir qu'au départ, on est resté en France, ce qui était pas assez pratique et ce qui nous a permis de laisser certaines oui. affaires chez des copains chez qui on passait.
C'était un peu notre préparation. Quoi.
Et c'était oui, oui. notre préparation parce qu'on
en itinérance complètement.
C'est ouais. ça, en fait, ouais. on est parti. On n'avait jamais essayé nos vélos ni nos sacoches. Donc en fait, nos premiers coups de pédale, c'était notre premier jour de voyage et on était, en fait, on n'avait jamais testé notre équipement. On s'est dit que la phase de test, bah, ça serait le début du voyage, tout simplement.
Mmh. Et... bah, c'est peut-être la meilleure, manière de voyager, finalement. Je comprends très bien l'esprit. On fait déjà une petite pause. Je vois bien et j'en suis ravi que vous avez énormément de choses à nous dire. Et on a tout notre temps, mais il faut qu'on se fasse une petite pause musicale. On continue de parler de la préparation en itinérance pendant votre début de voyage, juste après une petite chanson. À tout à l'heure.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et c'est parti pour la deuxième, c'est reparti pour la deuxième session de l'invité du 12-13 en compagnie de Julie et Baptiste qui se sont lancés le pari fou l'année dernière de faire le tour d'Europe à vélo. Et on parlait en première partie, Julie et Baptiste, du fait que c'était certes préparé, mais qu'il fallait se préparer aussi à l'imprévu quand on fait ce genre de voyage. Alors, se préparer à l'imprévu, parce qu'effectivement, 12 mois, 20 000 kilomètres, on ne peut pas tout prévoir au jour le jour. Alors, racontez-nous un petit peu cet itinéraire un peu énorme, hein, pour info. Je disais que c'était le Tour de France, là, en ce moment. Alors, c'est des professionnels, évidemment. Le Tour de France, c'est 3 semaines, 3300 kilomètres, hein, donc ils vont vite.
Oui, clairement.
Ils ne sont pas chargés, comme vous, etc. Mais vous, vous avez quand même fait plus de 6 fois plus que le Tour de France. Alors, racontez-nous, ça partait... du coup de Tyros ou de chez les parents, c'est ça, de Baptiste?
Oui, on est parti de chez mes parents. On a décidé quand même de ne pas la jouer trop dur au début. On a ouais. traversé les Landes sur la Vélodyssée, donc l'Eurovélo 1, mm-hmm. Jusqu'à Bordeaux. Donc ça nous a permis de nous mettre en jambes gentiment. Moi, je pensais faire 50-60 km premier jour. On est parti direct sur 90. Mais ça, c'était Julie. Et ça, finalement, bon, ça se fait, c'est toujours tout plat. C'est, voilà, c'est la partie facile, les Landes, c'est très bien pour commencer. Suite à ça, on a changé d'Eurovélo. On est parti plutôt vers la Scandibérique, donc l'Eurovélo 3 depuis Bordeaux. On a rejoint les châteaux de la Loire, mm-hmm. Donc on a traversé la Charente, puis suivi la Loire. Puis après, on a fait tout le tour des côtes bretonnes, c'était magnifique.
Ah, oui.
En mai, on a...
Par le sud, alors vous avez fait le tour par le sud jusqu'au nord, vous avez quand même coupé, vous n'avez pas fait tout le tour.
On a fait
tout le tour.
Ah, ouais. C'est extraordinaire ça.
On a fait tout le tour depuis Saint-Nazaire.
Oui, c'est ça.
Saint-Nazaire et jusqu'au Mont-Saint-Michel.
Ouais, en bouchure de la Loire, jusqu'au Pointe du Raz, tout ça. Ouais, alors là, il y a des randos vélos quasiment qui permettent de faire tout le tour, comme un genre de sentier des douaniers, un truc comme ça.
Oui, on a des routes. Après, c'était pas forcément que de la piste cyclable.
Oui.
Mais on est passé sur des routes qui étaient tout à fait praticables à vélo et pas forcément très passantes.
Oui, il y a eu de très belles pistes et aussi des routes un peu moins jolies. Mais je pense qu'à pied, il y a plus de choses à voir à pied sur cette partie-là, même si nous, on a vu quand même de très très belles choses.
Oui.
Donc là, en Bretagne, ça fait quoi, 3 semaines que vous êtes parti quand vous arrivez en Bretagne et,
Ça fait à peu près ça.
Ouais.
Et donc, arrivé au Mont-Saint-Michel, Baptiste m'a quitté une semaine parce qu'il avait un événement entre amis.
Ouais.
Et donc, j'ai roulé pendant une semaine sur toutes les côtes normandes cette fois-ci.
D'accord.
Donc, c'était aussi une première expérience pour moi de voyage à vélo seul.
Mmh. Sur une semaine, ce qui n'est pas forcément évident.
Exactement, mais c'est vrai que c'était une très belle expérience. J'ai rencontré plein de monde à ce moment-là. Je ne me suis jamais vraiment sentie seule.
Et vous êtes au printemps, donc, à ce moment, ouais. à peu près en mai, quoi, c'est ouais, ça?
On est à peu près mi-mai à ce moment-là.
Mi-fin mai, je pense. Ah non, que... mai, ouais, on a mai. Terminé la Normandie fin mai pour après partir au Royaume-Uni.
Voilà.
D'accord, donc fin mai, après vous prenez le ferry, vous montez au Royaume-Uni, vous c'est faites ça. La rencontre des fameux Midges, des Islands, ça il faut ouais. que vous nous en parliez. Les Islands, c'est le nord de l'Écosse pour les auditeurs qui ne savent pas forcément. Il y a des endroits magnifiques avec le Loch Ness notamment, ouais. etc. Ouais. Glencoe, j'imagine que vous y êtes passé.
Non, on n'y est pas passé.
Après, d'accord. Après le Loch Ness, non, vous êtes parti un petit peu au nord, non ?
Alors, on va se faire des ennemis, mais on n'a pas vu le Loch Ness. En fait, ah. on a vu tout un tas de lochs et on s'est
oui.
dit celui-là,
ça suffit.
Exactement. On n'a pas forcément cherché les endroits les plus touristiques.
Oui, mais vous avez bien fait.
En fait, donc.
Et alors, les Midges, racontez-nous.
Ouais. Alors, déjà, à savoir qu'on a un peu triché. Hein. On a pris le train entre Londres et l'Écosse.
Oui, on peut pas.
Parce qu'on avait un temps limité à ce moment-là à passer au Royaume-Uni. En Écosse, effectivement, dès les premiers soirs, on a fait la rencontre des Midges, qui sont ces espèces de petits moustiques qui ont la taille de moucherons, en fait, et qui viennent par nuées, comme les moucherons, hein, par milliers,
aïe, aïe, aïe.
Sauf qu'ils piquent et qui font le bruit des moustiques.
Aïe, aïe, aïe.
Et vraiment, c'est un vrai phénomène. Hein. En Écosse, tout le monde les connaît. Ils sont présents en été, sur les 3 mois d'été. Nous, on y était en plein dedans. En tout cas, ils commençaient. Et c'est vrai qu'à vélo, on est assez vulnérable à ça parce qu'on n'a pas forcément d'endroit de repli.
On va pas mettre la moustiquaire pendant qu'on roule, quoi.
On était obligé de rouler avec un filet sur la tête parfois.
Ah oui, d'accord.
Et toujours en tenue longue. Alors, il faisait pas trop chaud, donc ça va. Mais on était toujours obligé d'avoir un pantalon long ou une veste pour éviter les piqûres. Et donc, moi, j'ai fait une belle réaction allergique à ça. C'était pas très agréable.
Et j'imagine. Ouais. Et effectivement, on s'imagine, nous, des moustiques dans les pays tropicaux où il fait chaud. Ben, en Écosse, l'été. Attention, gare aux auditeurs qui veulent se faire des vacances dans les Highlands. Attention aux Midges, prenez de la.
Il existe là-bas, voilà. Il existe là-bas des sprays spéciaux anti-Midges. Et aussi, c'est marrant, une sorte d'huile sèche qui est utilisée de base pour s'hydrater la peau par les militaires et qui au final ils se sont rendu compte que ça repoussait les midges. Ah. Donc cette huile sèche est vendue en pharmacie à côté du produit anti-midges alors qu'à la base c'est pas du tout vendu pour ça.
Ouais, très bien, voilà les trucs et astuces. Alors vous êtes en Écosse là, ça fait à peu près 2 mois que vous êtes parti, vous y passez un petit peu de temps et puis j'imagine que vous redescendez après à Londres ou à Douvres peut-être pour prendre le ferry et continuer votre périple dans le nord de l'Europe cette fois-ci.
C'est ça,
on a fait
tous les plats pays, donc ouais. La Flandre, donc la partie Flandre de la Belgique, une belle partie des Pays-Bas, l'Allemagne du nord-ouest, ouais. Donc tout ça c'était des parties qui, quand on est arrivé, franchement on a été très soulagés parce que les Highlands, même oui. l'Angleterre, c'est quelque chose, c'est un pays très très vallonné.
Oui.
On arrive là, c'est tout plat, on avance.
Repos pour les jambes.
Repos, voilà. Puis on revient du bon côté de la route aussi, parce que mentalement, c'était pas si évident d'avoir tout à l'envers.
De rouler à gauche,
ouais. oui, bien sûr.
Et du coup, voilà, ça...
Ouais, plus en sécurité.
Ah oui, beaucoup plus de pistes cyclables. Beaucoup
Ah oui, les Hollandais sont connus pour ça aussi.
Ouais, même les Belges et même les Allemands, il faut leur reconnaître ça, même s'ils aiment beaucoup mettre des pavés sur les pistes cyclables, qui était un choix...
Questionnable, contestable.
C'était au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça devenait vraiment très introspectif.
Alors ça, on va se le garder pour la troisième partie. On est bientôt à l'heure de la pause intermédiaire, mais juste pour finir le tour, on y reviendra après. Donc vous partez Belgique, Pays-Bas, plat pays, hein, Allemagne, Danemark,
ouais.
Scandinavie, et puis après vous revenez par tous les pays baltes.
Exactement.
L'Europe de l'Est et la côte adriatique pour finir après l'Italie et la France sur la fin.
C'est ça, on est passé par la Grèce. Et
on reprendra après la pause sur donc, la partie allemande, Baptiste, dont vous parliez. Alors certes, il y a des pavés, mais puis aussi une monotonie, une certaine forme d'ennui là, et peut-être les premiers doutes qui arrivent. Et ça, c'est particulièrement intéressant peut-être à creuser. On y revient dans une petite dizaine de minutes, puisque c'est déjà l'heure de faire notre deuxième pause. On se quitte en musique et avec le flash info local de Jean-Philippe Dandurand. À tout de suite. Et après un petit peu de Serge Reggiani, nous revoilà dans l'invité du 12-13 avec Julie et Baptiste, les aventuriers à vélo, partis de Tyros en avril 2025 pour revenir à Tyros en avril 2026 après un tour d'Europe de plus de 20 000 km. Alors, Vous parliez tout à l'heure dans la deuxième partie des premiers mois de voyage en France, puis ensuite en Écosse. On est à l'été à ce moment-là. Et ensuite, vous avez donc pris le ferry pour rentrer un peu sur le plat pays, belge, flamand, hollandais, le nord de l'Allemagne. Au bout de 3 mois de périple, j'imagine que les premiers doutes arrivent. Il y a un peu d'ennui, un peu de monotonie. Comment est-ce qu'on fait pour braver tout ça? Racontez-nous.
Tu veux y aller, Baptiste?
Alors, on avait quand même acheté une petite enceinte pour se mettre un peu de musique, déjà qui fait passer un peu le temps. Et après, on avait chacun une paire d'écouteurs pour écouter nos podcasts. Ça nous donnait aussi un peu de grain à moudre le soir pour les pauses repas, des fois, parce que bon, on vit les mêmes choses constamment. Donc, il arrive qu'à un moment, on a
besoin de.
C'est plus trop quoi se dire. Bon, c'est bien les silences, mais aussi, du coup, ça nous permettait de.
D'avoir des sujets de conversation. J'ai écouté ce podcast pendant les 60 bornes qu'on a fait dans la vallée de la Roure.
C'est ça.
On a vu que des arbres et des pavés.
C'est ça.
Je pense que, et moi je l'ai vécu un peu différemment. C'est-à-dire que sur les zones où c'était un peu plus ennuyeux, c'est vrai que c'était des moments un peu plus introspectifs où je ressentais vraiment l'ennui, mais je trouvais que c'était pas forcément un ennui. Négatif. C'est aussi des moments où on peut penser, réfléchir, laisser libre cours à son imagination, à ses pensées, à ses doutes, à ses peurs, à ses moments aussi de joie où on a envie de faire des choses, à ses idées. Et du coup, j'ai essayé de le vivre aussi comme quelque chose de positif, même si parfois c'était plus difficile. Je voudrais dire aussi que à aucun moment, je pense, ni Baptiste ni moi avons remis en question notre voyage. On était partis pour un an. On savait qu'on allait traverser des périodes plus difficiles que d'autres. Mais ce que je me plais à dire à mes amis quand ils me posent la question, c'est que dans la vie de tous les jours, en un an, on en traverse aussi des moments difficiles.
Absolument.
En voyage, c'est pareil, sauf que c'est des difficultés qui sont plus physiques. Liés par exemple à par exemple les questions qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on va dormir ce soir, ou qu'est-ce qu'on va manger ou quoi. Donc c'est des questions qui sont vraiment liées aux besoins primaires, là où dans la vie de tous les jours, où on est dans notre petit chez soi, dans notre petit confort, on se pose des questions plus psychologiques qui vont être liées par exemple au stress du travail ou bien sûr. Donc c'est différents types de questionnements.
Alors pour les, c'est intéressant l'insertion que vous venez de faire, Julie. Comment est-ce que vous vous organisiez pour dormir? Est-ce que vous aviez, c'était du bivouac initialement prévu, quasiment sur tout le trajet. Bon, j'imagine que vous avez fait aussi des stops de réservation dans des pensions ou des choses comme ça. Mais est-ce que vous étiez aussi dans la dynamique d'Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez, est-ce que vous étiez dans ce délire-là entre guillemets ou moins?
Alors un peu oui et un peu non. Enfin, c'est toujours pareil, c'est assez nuancé. Non, vu que c'était notre premier voyage, qu'on avait pas trop d'expérience, les premiers temps, c'était quand même, on va pas se mentir, c'était beaucoup en camping, où on utilisait beaucoup aussi le site qui s'appelle Warm Shower en anglais, douche chaude, qui met en relation des cyclistes du monde entier, qui connaissent un peu les problématiques du voyage à vélo et qui du coup acceptent d'héberger d'autres cyclistes
gratuitement.
D'accord.
Donc c'est un peu un cercle vertueux qui se met en place. Une fois qu'on a été accueilli, on accepte d'accueillir des personnes chez nous. C'est ce qu'on va faire du coup maintenant à Tyros. On l'a déjà fait, accueilli des voyageurs à vélo du coin. C'est un bon moyen aussi d'échanger, de rencontrer du monde.
Bien sûr.
On a aussi beaucoup fait de bivouac quand on était dans les pays scandinaves, parce que pour le coup, c'est très bien aménagé pour. Il y a ce qu'on appelle des shelters, donc qui sont des emplacements spécialisés pour le bivouac. Ils donnent du feu de bois. En général, c'est proche d'un lac, c'est proche de la nature, c'est très agréable. Donc en été, on n'avait pas forcément besoin de dormir en intérieur parce qu'il faisait beau. On a eu beaucoup de jours ensoleillés. En revanche, sur la partie de l'Europe de l'Est, on a passé des journées un peu plus difficiles parce qu'il commençait à faire plus froid.
Alors voilà, reprenons le fil là, du voyage. Vous partez donc au mois d'avril, côte française, Europe du Nord, proche de la mer du Nord, etc. Danemark, après Scandinavie, donc c'est ce que vous venez de dire. En plein été, là c'est agréable
c'est
parce
ça.
Que
on descend la Finlande, on est passé par le sud de la Finlande.
D'accord. Ouais, donc vous avez quand même fait un bon morceau de la Suède. Vous êtes approché du cercle polaire sans y aller parce que c'est quand même très
haut.
Pas trop,
pas loin. Pas monter très haut.
Et après Finlande, et vous, re- tournée par les pays baltes.
Ouais.
Et après, vous arrivez en Pologne et les pays de l'Est. Alors, je parlais un petit peu des doutes et la partie sur l'introspection était très intéressante. J'imagine aussi qu'un tel voyage vous permet de faire des rencontres extraordinaires. Quelles ont été les choses qui vous ont le plus surpris, notamment au niveau humain. J'imagine que c'est quand même un an de rencontres complètement inattendues et surprenantes.
Eh bien, pour revenir sur le « J'irai dormir chez vous », on a un peu mis ça en pratique, en particulier dans les Balkans, dans les pays baltes. Et en Pologne. Et c'est en Pologne où on a été le plus surpris, parce qu'on a vu des retours de voyageurs qui disaient qu'ils étaient assez fermés et tout. Et au final, on a été accueillis à chaque fois quasiment qu'on a posé la question. Beaucoup ne voulaient pas qu'on leur dise. C'est la question qu'on posait, parce que pour nous, c'était quand même assez... c'était pas évident, intrusif de poser la question, bonjour, on peut dormir chez vous à l'intérieur. Donc pour nous, une solution plus facile, c'était de leur demander de planter la tente dans le jardin et d'avoir accès à un robinet d'eau, histoire qu'on puisse faire à manger, faire notre toilette. Et voilà. Mais souvent, voilà.
Et donc là, quand vous faites ça, c'est dans les pays baltes et tout, vous demandez aux gens, est-ce qu'on peut vous squatter un bout de jardin et en Pologne, et c'est plutôt bien reçu.
C'est incroyablement bien reçu. Ça a commencé dans les pays baltes. On a fait notre première demande, je me souviens, c'était en Lettonie. Et là, on s'est dit, vas-y, on l'a fait à la nuée culottée ou à la j'irai dormir chez vous. On tape aux portes et on demande l'hospitalité.
Et ça, vous ne l'aviez pas fait avant en Scandinavie, il n'y avait pas eu besoin de le faire en fait.
Non, on ne l'avait jamais fait. Alors, on avait eu l'occasion de se faire accueillir, mais sans avoir à le demander. On avait rencontré des gens sur le chemin qui nous avaient proposé de nous accueillir chez eux.
Et alors, pourquoi en arrivant aux Pays-Baltes et en Europe de l'Est, on change de dynamique? C'est parce qu'il
commence à faire froid.
D'accord. Donc il y a moins de gens dehors.
Moins de camping ouvert et moins de lieux de bivouac aussi.
D'accord.
Dans les Pays-Baltes, c'est plus difficile de trouver des endroits où dormir ou poser notre tente.
Et c'est interdit en Pologne. Donc, c'est interdit comme en France. Mais on nous avait dit qu'il y avait certains pays, je ne me rappelle plus exactement desquels, mais qui était très restrictif et qui ne voulait absolument pas de...
Après, c'est toujours possible. Attention, il y a des voyageurs à vélo qui le font, on respecte ça. Mais du coup, nous, on se sentait plus en sécurité avec l'idée de dormir dans un jardin, parce qu'on se disait qu'on était safe, qu'on n'allait pas se faire arrêter par la police, qu'on allait bien pouvoir dormir la nuit sans se poser de questions.
Et donc là, notamment en Pologne, vous faites des très belles rencontres. Vous avez gardé peut-être contact avec des gens. Vous allez peut-être les accueillir, vous allez retourner.
On a gardé contact avec beaucoup de personnes. C'est dingue. Moi, je me souviens par exemple d'une personne, je vais donner juste un exemple, parce qu'on en a trop à donner. On arrive dans un petit village paumé, on tape à une porte et là c'est une dame qui nous ouvre et on lui demande du coup si on peut dormir dans son jardin la nuit. Et là elle dit mais non, alors attendez, c'est pas possible, on va pas vous laisser dormir dehors. Elle dit tout ça en anglais. Vous allez rentrer chez nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous servir un thé et on va discuter de la situation. Et en fait, il s'avère qu'elle était tellement heureuse de nous accueillir, de voir deux voyageurs à vélo, qu'elle nous remerciait d'être là. Et son mari est allé chez ses parents, il a fait genre 10 km de route pour aller chercher un matelas gonflable. Ils nous ont fait dormir dans la chambre de leurs enfants. Et leur enfant, ils avaient 3 enfants, et leur fils a dormi dans leur chambre à eux. Elle nous a cuisiné un repas, il nous a préparé le petit-déj le lendemain. Et elle nous a en plus de ça remercié d'être là. Donc nous, on était sur les fesses parce que... On leur devait tout, en fait. On leur devait tout et on se retrouve dans une situation où ils sont tellement heureux de nous avoir chez eux que ça nous a vraiment rempli de bonheur. Et ce genre de rencontre, en fait, c'était assez récurrent. Et quand on repartait le lendemain, on avait tellement le cœur léger, se sentait tellement bien que ça nous a permis de traverser les périodes les plus difficiles.
Et oui, vous dites aussi dans les communications que vous avez fait sur votre voyage que ça vous a aussi un petit peu, ce voyage, rendu une forme de confiance en l'être humain. J'imagine que c'est ces moments-là qui aident et effectivement qui donnent aussi un petit peu chaud au cœur.
Mais oui, parce qu'on se voit souvent aux infos, attention, il y a de l'insécurité partout. Alors peut-être dans les très grandes villes, mais même, franchement, on a visité quelques capitales, presque toutes, les plus grandes, Londres, Rome,
Vienne, Prague.
Oui, parce que là, après la Pologne, c'est quand même l'hiver, etc., il fait froid, les arbres n'ont pas de feuilles.
C'était l'automne,
c'était très joli, tout était orangé. C'est ce qui a rendu, je trouve, le voyage en Pologne très, très joli, parce que voilà, il y avait énormément d'arbres orange, dans les couleurs de l'automne. La partie vraiment hivernale qui a commencé à être compliqué, c'est plus au sud, donc c'est après la Pologne, après...
Le Danube, là, c'est ça, vous rattrapez un peu le cours du Danube qui vous amène jusqu'à l'Europe du Sud, un petit peu plus chatoyante, j'imagine.
Mais c'est un très très long fleuve, très joli, mais on n'a pas vu grand-chose malheureusement parce que...
Donc là, il y a quoi, c'est République Tchèque, vous passez un peu en Autriche.
C'est ça, on l'attrape en Autriche. On le suivra jusqu'en
Bulgarie.
Bulgarie, c'est ça.
Non.
Et alors, il y a les portes Bulgarie. De fer quand même.
Voilà, ça c'était magnifique.
C'est un peu le bout.
Et c'était, en fait, on a eu de la chance. C'était le premier jour et le dernier jour. On a eu un temps magnifique. Oui. On a pu voir plein de choses. Et il y a eu un gros morceau entre les deux où c'était du brouillard H24. On ne voyait pas 20 mètres et un brouillard givrant.
Très
monotone, avec les pieds qui se glace petit à petit parce que
c'est tout le temps l'humidité.
C'est trop d'humidité. Donc, cette période-là, pour moi, c'était vraiment la période la plus difficile parce que il faisait froid la journée, donc on avait les pieds gelés. Donc, moins envie de prendre le risque de dormir dehors parce qu'on savait que les gens, souvent, ils acceptaient dedans, mais pas forcément tout le temps. Le fait que les hôtels n'étaient pas très chers, on est dans des pays assez pauvres au niveau de l'Europe, la Serbie c'est assez pauvre, donc on trouvait des chambres d'hôtel abordables, vu qu'on était deux, on arrivait à trouver des chambres à 20 euros, voire même des appartements entiers.
Mais ça a quand même rendu notre voyage un peu plus monotone, dans le sens où on avait un peu ce rythme de vélo, hôtel,
et moins de rencontres.
Exactement.
Oui, bon, après, ça ne peut pas être linéaire sur une année, avoir c'est tout ça. Le temps, je dirais, des rencontres extraordinaires et des paysages magnifiques.
C'est ça. Mais effectivement, pour revenir sur ce que vous dites sur les portes de fer, c'était vraiment, un moment à part. Il a fait vraiment très beau toute la journée. On a eu un magnifique coucher de soleil sur les gorges.
Oui, parce que juste pour l'info, les portes de fer, c'est des gorges qui sont situées entre la Serbie
et la Roumanie.
Et en fait, elles sont connues parce que ce sont des barrages en fait qui ont été construits entre les deux pays. Et en fait, c'est des immenses gorges qui sont très très belles. On les a passées à vélo. Il y a beaucoup de voitures qui passent aussi. Il y a peu de vélos qui passent. C'est pas forcément adapté, on va dire, au vélo. Mais là, quand on y est allé, il n'y avait pas trop de monde. Donc, on s'est senti bien, pas trop en insécurité. Et oui, les vues étaient magnifiques. Et après cette période longue le long du Danube, on était bien contents d'avoir ce genre de paysage.
Et oui. Et on conclura notre émission. On va faire notre dernière pause. Et puis, on reviendra ensemble pour parler justement de la fin du voyage, le retour par l'Adriatique, l'Italie, le soleil et le retour à la réalité finalement aussi. Donc on se retrouve dans deux petites minutes pour conclure notre émission. Merci encore pour ce passionnant récit du brouillard jusqu'aux portes de fer. Allez, à tout de suite.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de l'invité du 12-13 en compagnie de Julie et Baptiste qui ont fait un tour d'Europe à vélo. Alors on a quasiment fait tout le tour là depuis quasiment une heure que nous sommes ensemble. On en était à la fin du voyage. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu le retour à la maison après le long périple autour du cours du Danube. Je crois que c'était l'heure d'arriver en Grèce et autour de l'Adriatique. Racontez-nous.
Tout à fait. En fait, quel plaisir pour nous d'arriver en Grèce. On a pris quasiment instantanément 10 degrés sur le thermomètre et c'était de suite beaucoup, beaucoup plus agréable. On a pu faire un bon tour en Grèce, on y est resté plus d'un mois, avant de remonter par les Balkans le long de l'Adriatique, comme vous l'avez dit, et faire un bon tour en Italie jusqu'à Rome avant de rentrer.
Alors là, petit à petit, j'imagine qu'on on sent arriver la culture de la maison qui revient. Les Italiens, c'est quand même un peu les cousins, on se rapproche de la maison. Là.
Voilà, on sentait que ça avait une odeur de fer, on a une expression qui me revient d'un passant qui a discuté avec nous, qui disait... les chevaux commencent à sentir l'écurie, ils veulent rentrer. c'était vraiment cette idée-là. Et en même temps, c'était une très belle partie vu qu'on a eu la chance en Albanie et en Croatie de voyager avec d'autres Français qui allaient dans le même sens que nous.
Vous avez fait une portion à 4, c'est ça ?
On a fait une portion à 3, puis après à 4.
À 4, d'accord.
Et c'était,
ça doit être sympa.
C'était vraiment une super période.
On a traversé le Monténégro ensemble, c'était magnifique.
Ouais, c'était magnifique. C'était aussi plus physique toute cette partie parce que
c'est escarpé, plus escarpé.
Beaucoup plus escarpé, des pentes plus raides. mais en même temps beaucoup plus jolie parce que c'était beaucoup moins... Enfin, du coup, arrivé en haut, on avait quand même des jolis points de vue. Mmh. Donc, puis l'arrivée à Marseille, du coup, chez la maman de
Julie. Et donc là, on retrouve la famille après. Oui,
ouais, on passe par l'Italie, le sud de la Marseille. France, le sud-est de la France, la côte méditerranéenne.
Oui, parce qu'on est rentré à la maison voir maman, mais bon, on n'est pas encore dans les Landes là.
Exactement. Après, on a du coup continué notre route jusqu'aux Landes après avoir fait une bonne pause revigorante chez ma maman.
Mmh. Et alors, le retour à la réalité, le retour à la vie d'avant, là, parce que j'imagine que c'est un sacré accomplissement déjà de se dire, bon, ben, on a retrouvé les proches, ça doit être un grand bonheur, parce qu'une heure d'éloignement, une heure, c'était nous, là. On a discuté de ça pendant une heure, non, une année d'éloignement et tout, le retour doit faire du bien, mais le retour à la réalité, à la vie d'avant, ça doit pas être si évident que ça non plus. Est-ce que vous pouvez témoigner là-dessus?
Alors, effectivement, il nous a fallu, pour moi, enfin pour nous, un bon mois pour
redescendre.
Déjà, bon, on a eu une fête immense à notre retour. Ça nous a fait très plaisir. On a des amis, enfin la famille.
Oui, très belle surprise qui nous a été réservée.
Ils sont venus nous chercher le long de la Dour jusqu'à rentrer chez mes parents. Ça nous a fait très plaisir. Mais après, c'est fait, effectivement, passer d'une vie de nomade à resédentaire du jour au lendemain. Ça fait du bien et en même temps, ça fait très bizarre. Il y a un peu comme une espèce de décompression ou une fatigue. Oui. Enfin, personnellement, m'a envahi pendant un petit moment. Oui. Et bon, là, ça va
comme
mieux.
Comme un contre-coup.
Voilà.
En même temps, j'entends tout à fait ce contre-coup qui ne doit pas être facile à gérer. Mais est-ce que vous y trouvez, alors c'est peut-être un peu tôt encore, mais est-ce que vous y trouvez là dans le retour à la réalité, notamment au niveau du boulot, etc. Est-ce que vous y trouvez une nouvelle manière un petit peu de voir le monde, une nouvelle approche? Et est-ce que vous vous sentez un peu grandi de ce voyage quand même, non?
Oui, alors en tout cas, pour ma part, ce voyage m'a permis aussi de re-questionner mes priorités dans ma vie. Oui. À savoir que je suis dans une phase de ma vie où, bien sûr, j'ai envie de travailler et d'œuvrer à la société, mais j'ai en parallèle ce besoin de prioriser, de voir les personnes que j'aime, de participer à des projets qui font sens pour moi, plus que d'avoir un statut social élevé. Donc voilà, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis en train de monter doucement mon projet professionnel, mais que je prends le temps d'atterrir et d'accueillir aussi l'ensemble des émotions qui sont liées à cette fin de voyage. Je pense que c'est important de s'écouter, d'écouter son corps et de prendre le temps de se rendre compte de la chance qu'on a eue de pouvoir vivre ça.
Bien sûr, oui.
Effectivement, et c'est vrai que là, voilà, on a tout qui change et j'ai perdu un peu mes mots, mais...
Après, non, c'est sûr que ça doit être un gros chamboulement, mais j'imagine que vous ne verrez plus tout à fait le monde de la même manière maintenant.
C'est ça. C'est vrai que maintenant, je trouve que même depuis que j'ai repris, là, ça fait un mois, je trouve que on prend plus facilement du recul sur les choses, se dire que bon, finalement, rien n'est grave. C'est du travail, mais voilà, s'il n'y a pas de vie en jeu, c'est...
On a un toit sur notre tête, on a de quoi manger, et le plus important est là.
Oui, alors il y a une espèce de routine qui se remet en place, etc. Mais vous savez aussi, grâce au formidable voyage que vous avez fait, que c'est possible de vivre en itinérance, etc. Et donc j'imagine effectivement tout le bonheur que ça a pu vous apporter. On arrive déjà à la fin de nos échanges. On aurait pu y rester l'après-midi ensemble à discuter de tout ça. Bon, déjà on a fait une belle sélection. J'espère que les auditeurs ont un petit peu pu voyager aussi avec vous. Effectivement, je vous félicite moi pour le courage que vous avez eu de faire ça. Je trouve aussi beau que vous ayez un petit peu constitué au fil des avancées votre voyage en itinérance, ce qui est aussi une époque où on planifie tout, quelque chose d'assez juste. Et je terminerai cette émission en vous citant une phrase du Mahatma Gandhi qui dit que le plus grand des voyageurs n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais bien celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Et j'espère que ça en a tout l'air. En tout cas, vous avez fait chacun votre introspection et le tour de vous-même pour vous rendre aujourd'hui meilleur. C'est aussi le sens du voyage. Donc merci à tous les deux d'avoir prêté votre voix au micro de Souvenir FM. Plaisir partagé, évidemment. Je vous laisse en compagnie de David pour l'après-midi, en musique sur Souvenir FM. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine émission ici à Souston. Adi Schatz.
Adi Schatz.
Adi Schatz.